Bon, donc on va commencer cette semaine, comme toujours, avec quelques repères bibliographiques d'ordre un peu général. Donc, bien sûr, on avait signalé un certain nombre de textes déjà dans la première séance qui restent fondamentaux pour nous pour orienter la discussion. Poursuivons un peu dans le même genre de chemin. Ces deux ouvrages assez différents, mais tous les deux intéressants de différents points de vue. À droite, vous aviez donc le dictionnaire de l'autobiographie, mais exclusivement de langue française. C'est un travail très utile, même si c'est plutôt centré sur l'époque contemporaine. Il y a beaucoup plus de matériaux sur le 19e et le 20e, même s'il y a un certain nombre de textes désormais considérés comme classiques. Vous rappelez sans doute de ce texte qui a été édité par notre collègue Daniel Roche, portant sur le cas de Ménétra au 18e siècle, l'artisan de cette époque-là. Mais l'autre ouvrage que vous voyez ici, de Philippe Gasperini, d'ailleurs, est très intéressant parce qu'il y a une très grande ouverture là. Et d'ailleurs, je vais avoir l'occasion de revenir sur ce livre, car Monsieur Gasperini, tout d'abord, contrairement à un certain nombre de personnes, ne pense pas que l'autobiographie a été inventée par Rousseau. Il pense qu'il faut regarder beaucoup plus loin chronologiquement et aussi géographiquement. Donc, en fait, il regarde en dehors de l'Europe, le monde de l'islam, comme on va faire nous aussi aujourd'hui. Et puis, il regarde aussi, par exemple, les cas de l'Extrême-Orient. Et là aussi, c'est quelque chose où on va en partie suivre son chemin. En fait, il s'arrête plus ou moins avec la Renaissance, tandis que nous, on va poursuivre jusqu'au 18e et même au début du 19e. Mais ça reste donc, pour moi, une réflexion très, très utile et très intéressante, justement, à cause de cette ouverture d'esprit qu'on trouve dans ce texte-là, qui, à mon avis, suit un peu donc, les pas de Marcel Mauss dans la conception de l'écriture de soi. Alors, donc, la semaine prochaine, nous avons donc commencé avec cet essai de notre collègue ottomanisant Jamal Khafadar, qui a donc écrit à la fin des années 80 ce texte sur le journal d'un derviche à Istanbul au XVIIe siècle, derviche qui était donc lié avec un des ordres soufis, mais aussi qui était quelqu'un qui était assez bien placé dans le milieu religieux et social d'Istanbul. Et en fait, quelque part dans cet article, M. Khafadar nous signale qu'il y a bien sûr pas mal d'antécédents. Ce n'est pas comme si tout cela a commencé à l'époque moderne. Par exemple, il nous avait signalé ce texte qui a été traduit et commenté par le grand spécialiste de l'islam médiéval et d'histoire des sciences, aussi George Magdisi, sur le journal d'un historien, en fait, Hanbalit, qui vivait à Bagdad à l'XIe siècle déjà, qui avait tenu un journal. Donc, vous voyez qu'on peut puiser beaucoup plus loin dans l'histoire de l'islam et des pays islamiques. On n'est pas obligé de commencer, donc, par exemple, avec les Ottomans ou avec les Mamelouks. Et puis, la semaine dernière, on avait poursuivi notre chemin en allant un peu vers l'Inde. On a donc examiné, avec un peu de détails quand même, ce texte d'un marchand de l'Inde du Nord qui vient du milieu Jaina et qui a donc écrit cette autobiographie juste avant sa mort, 2 ans avant sa mort, et dans lequel il se moque un peu de lui-même, mais il a une espèce de regard très ironique sur un certain nombre de choses. Et surtout, ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on a essayé de voir comment, en sortant du milieu islamique stricto sensu et du milieu persanophone, on peut trouver ce genre de texte. Et il y a toute la question qui reste ouverte, qui a été donc soulevé en partie par ces deux auteurs dans leur livre, le jeune chercheur Rajiv Kindra dans son texte portant sur un secrétaire qui travaillait pour l'Empire moghol, mais qui était un brahman, donc, qui appartenait à ces milieux hindous, mais fortement persianisé, hein, du XVIIe siècle. Et puis, cet autre texte traduit par Chaudhry Naïm, qui est l'autobiographie d'un poète du XVIIIe siècle, de l'époque du déclin de l'Empire moghol. Et on avait vu, en fait, que si on regarde dans ce monde, en gros, moghol, on a le choix de textes, on a quand même une certaine richesse, peut-être pas autant que dans l'Empire ottoman, mais néanmoins, il y a un certain nombre de ces textes. On avait parlé brièvement du troisième de ces textes dans la liste, qui est le Fatah Ebria de Shehabuddin Talesh, car il y a une tradition partielle en français qui a été faite au XIXe siècle. Mais il y a aussi ces autres textes, des gens, donc, soit des hindous, comme Nek Rai ou Bhimsen ou Anandra Mukhlis, travaillant pour l'Empire moghol, ou par exemple quelqu'un comme Mirza Natan, qui est un Iranien d'Esfahan, mais qui a vécu à l'Empire moghol. Et donc, on a pas mal de choix, et on continue d'ailleurs à trouver des textes. Je vous mentionne donc brièvement ce texte qui est assez intéressant, écrit par un dénommé Abdul Latif Gujarati, dans la première moitié du XVIIe siècle. Abdul Latif n'était connu en fait que par les philologues, parce que c'est quelqu'un qui était... qui a eu une intervention assez importante dans la philologie persane du XVIIe siècle. Il a voulu en fait produire une édition critique de Rumi, de Masnavi de Maulana Rum, et en fait il a beaucoup voyagé justement pour avoir autant de manuscrits qu'il pouvait, et finalement il a pas seulement produit cette édition critique mais aussi un glossaire et un commentaire sur le Masnavi. Mais c'est aussi quelqu'un qui a écrit un texte en première personne, pour ainsi dire, dans lequel on trouve ces thèmes assez caractéristiques de tous ces textes. Question de ce qui est le service et la loyauté envers les gens ou envers l'Empire en tant que tel. Le problème pour lui, en tant que bon musulman de Gujarat, d'Ahmedabad, de ce qu'il trouve l'attitude un peu difficile des empereurs moghols envers la religion, parce qu'il trouve que les empereurs moghols ne soutiennent pas assez l'islam. Donc, mais en même temps, il y a une espèce de contradiction entre sa loyauté envers l'Empire et le fait qu'il a ses réticences envers leur politique religieuse. Et puis, il y a aussi d'autres aspects dans son texte autobiographiques qui sont assez intéressants, comme par exemple, il a des réflexions sur la nature dans le contexte de la frontière, parce qu'il a passé du temps au Bengale, mais aussi, par exemple, par rapport au Gange, parce qu'il a aussi passé pas mal de temps en voyageant sur la rivière. Donc, on voit tout cela. Il y a aussi des questions de centre et de périphérie dans l'Empire. C'est quelqu'un qui est lié, d'ailleurs, avec un grand personnage. Donc, quand on parle de la loyauté, il y a la loyauté envers l'empereur, mais aussi envers cette personne-là, qui est Asaf Khan, le frère donc, de Nur Jahan, la femme de l'empereur Jahangir, et aussi le beau-père de Shah Jahan, autre empereur. Donc, il est lié avec ce milieu iranien de Téhéran, mais néanmoins, lui-même étant sunnite et son patron étant donc chiite. Donc, vous voyez aussi qu'il y a un aspect récit de voyage dans son texte. Il commence ici à Ahmedabad, il passe par le Rajasthan, il vient dans le Punjab, où il passe du temps à la cour moghole, puis il descend la rivière, et finalement, quand il termine son texte, il est au Bengale. Donc, il y a aussi cet aspect de déplacement. Et on est surtout dans les années 1600-1610, par là, et on voit ce genre de choses. Ce n'est pas un texte extraordinaire au niveau des réflexions, mais c'est un texte qui est quand même assez frappant parce que, par exemple, il jette la lumière sur un certain nombre d'endroits dont on ne parle pas beaucoup normalement. Donc, par exemple, un endroit comme ça, Narnol, qui n'est pas exactement dans les top 50 pour les visites touristiques en Inde aujourd'hui, même si ce n'est pas loin de Delhi, vous voyez, ces hélices, ça c'est Narnol, qui était un centre assez important à l'époque des Moghols au XVIe siècle. Et lui, en fait, il parle de cet endroit. Et juste pour vous donner une petite idée de ce genre de choses qu'il raconte autour des questions de service et de loyauté, voilà ce qu'il raconte quand il est à Narnol. Il dit « Un dénommé Shah Qoli Khan, un homme de piété et de vertu et proche du regretté empereur Akbar, car il était en train d'écrire à l'époque de Jahangir, a gouverné l'endroit pendant plusieurs années. Il a fait construire un hammam, un pont et plusieurs autres bâtiments magnifiques à cet endroit. » Parmi les bâtiments, on voit ceux-là. Hein. Donc ça, c'est le tombeau d'ailleurs de Shah Qoli Khan. Alors, puis il continue. À l'extérieur de la ville, il a creusé un étang qui se compare au Hoz et Kosser dans le paradis avec un bel édifice au milieu. Ça, c'est d'ailleurs l'autre bâtiment que vous voyez ici à gauche. Et puis il continue. Mais la vie de cet homme était pleine de vicissitudes. Des rivaux remplis de jalousie l'ont accusé d'avoir eu des relations illégitimes avec des femmes de la région. Pour se défendre devant les yeux de l'empereur, il a répondu à cette accusation en faisant couper l'instrument de sa virilité à la terre où Juliette, et par conséquent, il est resté célibat toute sa vie sans avoir des fils et des enfants. On peut ainsi dire que ces bâtiments étaient comme les seuls enfants qu'il a eus. Donc, vous voyez que c'est un cas assez extrême de loyauté et de service à l'idée de l'Empire et comment, en fait, il fallait l'affirmer. Et c'est un des cas de ce genre de personnage qu'il trouve et qu'il a même tendance d'idéaliser dans sa description. Et bien sûr, on trouve pas mal d'anecdotes portant sur l'empereur lui-même, l'empereur Akbar, vous voyez ici, sur un éléphant en traversant le Gange. Et finalement, il y a aussi pas mal de réflexions sur le Bengale, où il se trouve à la fin, pour lui, un pays extrêmement exotique, presque bizarre, plein de gens assez étranges, qui est la frontière, l'extrême de l'islam. Donc là aussi, il y a la question de l'islam qui se pose. Alors, on a donc, comme je vous ai dit, un choix parmi les textes portant sur l'Empire moghol. Et je vais juste développer un peu en prenant un autre texte, un texte qui est un peu plus ancien que ça, qui remonte au XVIe siècle. Et c'est un texte qui est intéressant aussi parce qu'il a été pas tout à fait oublié, mais relativement négligé par rapport à un texte sur lequel j'ai parlé un peu par le passé, c'est-à-dire l'autobiographie de Babur. Donc vous voyez que Babur, qui était le premier empereur moghol de l'Inde, a vécu entre les années 1480 et les années 1530 à peu près, mais il avait pas mal de cousins à lui, tous des Timurides, tous des descendants de Timur et aussi parfois de Genghis Khan, et souvent qui avaient des carrières qui avaient beaucoup moins de succès que Babur, qui finalement, après tout, même s'il a beaucoup erré pendant plusieurs années, finalement, il a réussi son coup, il est devenu empereur d'un grand empire. Et là, je parle de quelqu'un qui s'appelle Mirza Mohammad Haider Doghlat. Donc, et c'est plus ou moins exactement le contemporain de Babur, c'est son cousin, c'est son cousin un peu éloigné quand même, mais néanmoins son cousin qui est associé avec Babur à un moment donné de sa vie. Et puis, on va voir sa carrière et aussi ce qui est intéressant sur son texte. C'est un texte qui, contrairement au texte de Babur, est écrit en persan. Donc, vous voyez que Babur écrit en turc Chagatai, donc en turc oriental, tandis que celui-ci écrit en persan. Tous les deux contrôlaient les deux langues. L'un a choisi le turc pour s'exprimer, l'autre a choisi le persan pour s'exprimer. Alors, donc, regardons un peu sa carrière. Donc, c'est quelqu'un qui est né autour de 1499-1500 à Tashkent. Puis, quand il est jeune, il est associé avec Babur au moment quand Babur est plus ou moins en train de s'installer autour de Kaboul et a des relations avec l'Iran et tout cela. Puis, il laisse le service de Babur et il rentre dans le service d'un autre prince timouride, le sultan Sayyid Khan. Et puis, sous le service de cet autre sultan, il mène des campagnes, surtout en haute altitude. Donc, c'est un spécialiste de ce genre de guerre. C'est un guerrier hardi et très connu pour cela. Donc, il a des campagnes, par exemple, contre le Ladakh, contre le Tibet, contre le Cachemire, et tout cela dans les années 1530. En 1533, il mène une attaque toujours contre Lhasa, qu'il a presque pris, et d'ailleurs, il nous raconte des choses assez intéressantes sur Lhasa à l'époque. Et puis, il va un peu plus vers l'ouest. Il est, dans les années 1536-37, il est à Badakhshan, puis à Kaboul. Donc, il suit à peu près, avec un peu de retard, le chemin de Babur, sauf que Babur ne s'est jamais intéressé au Tibet et au Ladakh. En 1538, il se met brièvement au service d'un des fils de Babur, qui est Mirza Kamran, qui était à l'époque à Kaboul, et puis au fils aîné, qui est Humayun, 1539. Et finalement, il laisse tous ses autres cousins, neveux, et ainsi de suite, pour lui-même entreprendre la conquête de Cachemire. Donc, il est celui qui a fait la conquête pour les Timurides de Cachemire en 1540. Il va s'installer, donc, les dernières années de sa vie, pendant 11 ans. Il reste à Cachemire, où il est mort, donc, assassiné en 1551. Mais pendant 11 ans, en fait, c'est quelqu'un qui était au Cachemire et donc qui a abandonné, ça c'est plus ou moins les régions dans lesquelles il trouvait ses origines, ça c'est la ville de Yarkand. Puis il est passé de là, vous voyez, cette région qui normalement qui s'appelle Mogolistan. Hein, et puis il a fait ses sorties par là, et il est passé par là et finalement rentré dans le Cachemire où il s'installe à la fin. Donc voici son texte, ou quelques bouts de son texte. Il commence donc en nous disant que le Coran, qui est le plus grand des miracles de Mohammed, est divisé en trois sections, et c'est pour cela qu'il va lui aussi diviser son texte, son propre texte, en trois sections. Le premier contient, alors là, il est en train de décrire le Coran, la déclaration de Tawhid de Dieu, le second, les statuts de la sainte loi de Mohammed, et la troisième, des questions historiques comme la vie des prophètes, etc. Donc, il dit, il continue, par exemple, les Turcs, ils se considèrent Turcs, dans leur composition littéraire et dans leur conduite des affaires, ainsi que dans leurs rapports ordinaires, emploient un discours fondé sur les traditions et les chroniques de leurs ancêtres. De quel droit puis-je, avec mon pauvre apprentissage et mon manque de capacité, tenter de faire couler l'encre de mon roseau sur la blancheur de la littérature? Ma justification réside dans le fait que j'ai, au cours de ma vie, recueilli de nombreux faits authentiques concernant ces Khakan Moghols qui étaient musulmans, et j'ai aussi joué un rôle dans leur histoire. À l'heure actuelle, il n'y a pas que moi qui connaisse ces traditions. Ainsi, si j'en avais pas fait la tentative, il est probable que la mémoire des Moghols et leur Khakan serait tout à fait perdue. Donc, il se justifie en disant qu'il est, en quelque sorte, l'héritier d'une certaine tradition qui risque d'être perdue. Il continue. Mais c'est la pratique des auteurs de s'excuser, de demander pardon s'ils avaient pu faire des erreurs ou des maladresses dans leur travail. Si je ne vais pas faire l'apologie, comme ceux qui disent s'il y a des erreurs ou des maladresses, car je sais que mon livre est plein d'erreurs de bout en bout. Mon but n'est pas de vanter mon mérite, mais simplement d'écrire un mémoire. Donc, il continue, c'est toujours cette idée des Khakan Moghols. Et il dit, en fait, parmi les Moghols, il parle des Moghols dans le sens de Mongols, qui n'étaient pas musulmans, je n'ai pas mentionné plus que leur nom, car un infidèle, s'il n'a pas pu parvenir à la splendeur de Jamshed et de Zobak, c'est-à-dire qui étaient aussi des infidèles, n'est pas digne qu'on commémore son existence. Ce Tariq al-Rashidi, son texte, a été achevé à la fin du février 1547 dans la ville de Cachemire, ça veut dire Srinagar, que Dieu la défende de la ruine et de la destruction, 5 ans après que Mirza Haider, là il parle de lui-même en troisième personne, fils de Mohammed Khorkan, fut monté sur le trône. Alors donc, ce qui est aussi intéressant, c'est à la fois qu'il parle de tout ce passé turc et mongol dans l'Asie centrale, comment ils ont erré, comment ils ont eu des problèmes. En fait, il a été plus ou moins chassé finalement de l'Asie centrale par ce qu'on appelle les Ouzbeks, les Chaïbanides. Hein. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il a finalement un certain mépris pour l'Asie centrale. Ça, c'est aussi l'opposé de Babur. Donc, Pabor, en fait, quand il était dans l'Inde, il avait toujours une nostalgie pour l'Asie centrale. Il trouvait que l'Inde était poussiéreuse, sale, sans intérêt, les fruits ne valaient rien, etc. Tandis que lui, il a plutôt un sentiment contraire. Il trouve que Mogolistan, en fait, il dit c'est presque le purgatoire. Hein. Il dit que, bien sûr, il cite à un moment donné un strophe de Golestan de Saadi en disant que, bien sûr, les gens qui habitent là-bas pensent que c'est le paradis, mais si vous demandez aux gens qui connaissent que l'enfer, ils pensent que la purgatoire, c'est le paradis. Voilà, tout est relatif jusqu'à un certain point. Mais regardez, par exemple, comment il voit le Cachemire. Hein. Donc, pour lui, le Cachemire compte parmi les pays les plus célèbres du monde entier. Il est surtout connu pour ses attractions et ses merveilles. Malgré son renom, les gens savent peu sur son état présent, et même en étudiant les livres des écrivains du passé, on n'apprend pas grand-chose sur son histoire ou ses particularités. Donc là, c'est en 43-44 qu'il commence à écrire ce texte. La deuxième fois que je suis rentré dans le Cachemire et quand je n'avais pas encore achevé la conquête du pays tout entier, je suis allé regarder dans le Coran pour un augure par rapport à la conquête et la possibilité de m'établir là-bas. La strophe qui m'est venue était la suivante. « Mange le pain quotidien du Seigneur et donne tes remerciements sous la forme d'une belle ville. Le Seigneur te pardonnera. » Alors donc, il est au Cachemire, il est très content. Il nous dit que, en fait, c'est plus ou moins un paradis terrestre, qu'il est vraiment bien tombé à la fin de sa vie, après avoir passé tout ce temps dans les neiges à livrer des campagnes contre les uns et les autres. Et bien sûr, il nous fait sentir son mécontentement dans la première moitié de sa vie, puis comment, en fait, il arrive dans ce territoire. La plaine de Cachemire, il dit, commence dans la région de Bakani, qui veut dire entre le sud et l'est. Il va en direction de Rukanben. Il s'agit d'une distance, etc., etc., d'environ 100 karor. Hein. Puis il dit qu'il y a quatre sortes de terres, terre irriguée, terre qui n'a pas besoin d'irrigation artificielle, les jardins, et ainsi de suite. Il dit, même en été, la chaleur est si agréable qu'on n'a pas besoin d'un éventail. Il y a toujours une brise douce et rafraîchissante. Le climat de l'hiver est aussi assez tempéré, malgré les neiges qui sont parfois pesantes. En général, on n'a pas besoin de fourrure. En réalité, le froid de l'hiver rend l'été d'autant plus agréable. Alors ça, c'est donc son point de vue sur le Cachemire. Alors par contre, si on regarde ce que disent les historiens de Cachemire sur Mirza Haider Doglat, on se rend compte qu'il est parmi les gens les plus détestés de l'histoire du Cachemire. Alors, donc, là, vous avez deux exemples. Ça, c'est un livre écrit par un des grands historiens de notre génération, Mohibul Hassan, d'ailleurs, qui avait aussi fait un commentaire assez poussé sur l'autobiographie de Babur. Et ça, là, à droite, vous aviez le livre de Shahzad Bashir, qui est spécialiste de la religion musulmane en Asie du Sud. Et en fait, dans les deux livres, on nous raconte que l'époque de Mirza Haider était terrible. Il était quelqu'un d'extrêmement violent, surtout contre les autres musulmans. Donc, apparemment, quand il s'est installé dans le Cachemire, il a trouvé qu'il y avait beaucoup de musulmans soi-disant hétérodoxes dans le Cachemire, notamment le groupe qu'on appelle Nurbakhshiya, qui était plus ou moins un groupe millénariste du 15e, 16e siècle. Et apparemment, il a entrepris pas mal d'actions extrêmement violentes envers ces gens. Donc, les deux le traitent comme quelqu'un d'assez problématique, comme plutôt violent dans son comportement, un sultan très exigeant, qui méritait bien l'assassinat, et ainsi de suite. Mais d'ailleurs, en se centrant sur cet aspect des règlements de compte entre groupes de musulmans, parfois on a tendance d'oublier qu'il y a des aspects assez surprenants dans le texte de Mirza Haider. Hein. Donc, voilà un passage. Il dit, « Parmi les merveilles du Cachemire, la première est certainement celle de ses temples aux idoles. Autour de Cachemire, il y a plus de 150 temples, tous construits de pierres de taille, qui sont jointes les unes sur les autres avec tant d'expertise qu'il n'y a pas besoin de ciment. Ces pierres ont été placées si parfaitement, sans plâtre et mortier, qu'on ne peut pas passer une feuille de papier entre elles. Ces pierres mesurent entre 3 et 20 gazes en longueur, 1 gaz en profondeur et 1 à 5 gazes en largeur. La vraie merveille, c'est comment ces pierres ont été transportées et mises en place. Tous ces temples possèdent presque le même plan. Il y a une cour carrée qui parfois peut atteindre tant de gaz en hauteur et chaque côté, etc. Et puis, il nous dit que, donc, en gros, que ce sont des vraies merveilles de l'architecture. Il parle probablement des temples qui existaient à l'époque, c'est-à-dire au XVIe siècle, et qui ont été ruinés par la suite. Donc là, vous voyez un exemple assez connu de la région d'Anantnag, qui est le temple de Martand. Ce qui est aussi surprenant, c'est qu'il n'a aucune réaction négative, même face à la représentation figurale. Donc, par exemple, il nous dit « L'intérieur et l'extérieur de ces salles ont l'apparence de deux portiques, chacun couvert d'une ou deux pierres, les capiteaux, l'ornementation en relief, les corniches, le travail en dents de chien, tant à l'extérieur comme à l'intérieur et à l'extérieur, sont couverts de peintures et d'images que je suis incapable de décrire. Certaines représentent des personnages riant ou pleurant, que sont des merveilles à regarder. Au milieu, il y a un grand trône fait entièrement de pierre, et sur ce dôme, aussi fait de pierre, si belle qu'il dépasse mes capacités de description. Dans le monde entier, jamais une personne n'a ni vu ni entendu parler de pareils bâtiments. Et qui plus est, ils sont 150 en nombre. » Donc, quelqu'un qui est manifestement un peu plus compliqué que ça, parfois on nous donne à entendre, il se peut qu'il avait donc plus de difficultés à avaler l'islam hétérodoxe que des pratiques qui étaient plus lointaines. Donc, manifestement, son attitude envers les hindous, entre guillemets, il n'utilise pas le mot, hein, mais les hindous ou les infidèles, comme il les appelle, et autres, il a tendance à regarder tout cela dans le genre de ce qu'on appelle Ajaib Gharaib, les merveilles et les choses étranges qui existent dans le monde. Donc, on peut faire, et ça serait intéressant à faire, parce que tant que je sache, personne n'a vraiment développé cette idée, par exemple, de comparer et contraster le texte des deux cousins, de Babur contre Mirza Haider. Babur, qui était l'aîné de 15 ou 16 ans, des textes donc produits dans deux langues voisines, écrits par des gens qui avaient le choix, comme je vous ai dit, d'écrire soit dans le turc, soit dans le persan, l'un ayant choisi le turc, l'autre le persan, et les deux ayant eu des carrières assez semblables jusqu'à un certain point, mais avec des réactions donc finalement assez différentes. Alors là, je vais laisser ce milieu de l'Asie du Sud, de l'Asie centrale, pour aller un peu plus vers l'Est. Juste en passant, je vous mentionne ce texte-là, qui est un texte assez rare et méconnu. Il n'y a pas beaucoup de textes de ce genre. C'est le journal, c'est donc toujours une espèce d'ego document important, écrit par un soldat mandchou du XVIIe siècle. Donc, c'est un texte qui a été traduit récemment par notre collègue italien Nicola Di Cosmo. C'est un texte qui a aussi été utilisé maintenant par quelques historiens de la Chine à l'époque de la conquête des Qing ou des Mandchous, comme par Mark Elliott dans ce livre de Manchu Wei. C'est un texte d'ailleurs qui n'est pas très grand, beaucoup plus limité que les textes qu'on vient de décrire. Là vous voyez que c'est le... Je n'ose pas prononcer le nom en manchou. C'est donc écrit par un certain Zheng Xiu, qui a aussi un nom sinisé. Il est probablement le fils d'un général assez célèbre au moment de la conquête, qui appartenait à ce qu'on appelait la bannière rouge. Les Mandchous étaient organisés à l'époque de Qing sous ce système de bannière. Et c'est en fait qu'une partie de son journal qui a survécu. Et c'est en fait quelque chose qui a à voir avec un moment assez précis qui est une rébellion qui a eu lieu dans les années 1670-80 dans le sud-est et le sud-ouest. Et il va passer du temps, donc, notamment plus ou moins ici, dans le Yunnan. Et c'est un texte dans lequel il nous parle très précisément d'un certain nombre de aspects ethnographiques, par exemple. Et c'est à la fois pour l'ethnographie qu'il fait de ces régions un peu en marge de la Chine ou de la Chine impériale, et aussi pour ce qu'il raconte sur le train de vie des Mandchous eux-mêmes, qu'on a en fait utilisé ce texte. C'est aussi pour comprendre ce moment quand les Mandchous sont en train de se siniser, mais pas tout à fait. Hein. Donc, c'est un moment de transition et ce texte nous permet d'avoir une petite idée de ça. Mais en fait, ce que j'ai plutôt envie de faire, c'est d'aller un peu plus encore vers l'Est pour réfléchir toujours sur ce milieu un peu officiel des guerriers, des administrateurs, voire des bureaucrates, un peu semblable à ce que je viens de décrire dans le cas de l'Inde moghole, mais en poussant, comme je vous ai dit, plus vers l'Orient, hein, pour traiter donc de la question du Japon à l'époque moderne, plus ou moins, de l'époque qui est toujours le centre de ces cours. Alors, ceux parmi vous qui me connaissent depuis les années 90, vous savez que j'ai toujours été très intéressé par l'histoire japonaise à l'époque, notamment parce que j'avais étudié au départ le rapport entre les Portugais et les Japonais au XVIe et XVIIe siècle, mais il s'avère que cette époque, ce qu'on appelle la période d'Edo, est particulièrement intéressante et particulièrement riche pour le genre de texte qu'on a envie de traiter dans le cadre de ce cours, du cours de cette année. Alors, mais il y a quand même quelques problèmes qui se posent d'emblée. Alors, là, voici un article fort intéressant, assez polémique, écrit par un professeur à Longzhou, à l'Hidalgo, M. Lozrand, dans lequel il parle de ce stéréotype qu'on a, selon lequel il n'y a pas d'individu au Japon. Et en fait, son article est centré sur le 19e, 20e siècle, mais il nous dit que néanmoins, il y a l'idée selon laquelle les civilisations de l'Asie, au premier chef, la société japonaise, ne reconnaîtrait pas la valeur de l'individu et que c'est un lieu commun insistant depuis 125 ans environ. Donc vous voyez, en fait, 125 ans environ, ça veut dire plus ou moins à partir de l'époque de soi-disant ouverture du Japon après la restauration de l'empereur Meiji. On la retrouve, il dit, sous diverses variantes en Occident et au Japon, dans le discours savant comme dans l'opinion commune, en positif ou en négatif. Et donc, comme le remarquait le discret Alfred Smollard, le soi-disant manque d'individualisme des Japonais, leur grégarisme, le vous en connaissez un, vous les connaissez tous, cette assertion forme avec l'esprit d'imitation et l'agressivité la trilogie des lieux communs majeurs qui expliquent commodément les actions japonaises, y compris leur succès ou insuccès éventuel. C'est le troupeau opposé à nos sociétés individualistes. Donc voilà, on a besoin de lutter contre une série de stéréotypes. Et d'ailleurs, M. Lozenand, pas seulement dans cet article, mais dans une série d'articles qu'il a consacrés à ce sujet, a fait une fine analyse de plusieurs textes qui ont été écrits pendant la fin du 19e et le 20e siècle pour développer précisément cette thèse. Mais les historiens, quand ils remontent donc à cette époque, l'époque donc du shogunat de Tokugawa, notamment le 17e, 18e et la première moitié du 19e, ont toujours remarqué qu'il y avait une certaine richesse au niveau de ces autodocuments, de ces autobiographies venant de cette culture. Là. Donc, là, vous avez la représentation des premiers Tokugawa, Ieyasu et Hidetada, dans la première moitié du XVIIe siècle. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui a, depuis au moins un demi-siècle, peut-être un peu plus, attiré l'attention tout d'abord des savants japonais et puis des savants non japonais aussi qui ont étudié la question. Et voilà un des textes centraux pour aborder le problème, un texte écrit par un savant japonais, puis qui a été traduit en anglais, de Saiki Shoichi. Donc, il dit, là vous voyez que l'autobiographie, depuis longtemps, on a présumé que c'était un produit intellectuel purement occidental. Et puis il dit, mais si on regarde l'époque d'Edo, donc l'époque des Tokugawa, en fait, il y a pas mal d'intérêt pour l'expérience personnelle. Et d'ailleurs, il souligne parmi les maintes possibilités qu'on a de regarder des textes de l'époque dans cette société, il souligne surtout trois textes écrits par des membres de la classe guerrière, c'est-à-dire la classe samouraï. Donc, un premier texte de Yamago Soko, puis un deuxième texte de Arai Hakuseki, et puis un troisième texte de Matsudaira Sadanobu. Donc, pour lui, ça forme une espèce de triptyque. Moi, je ne vais pas traiter le premier de ces trois textes. D'ailleurs, c'est le texte le plus conventionnel. Ça ne manque pas entièrement d'intérêt, mais c'est peut-être le moins subtil et le moins développé des trois. Mais je vais me centrer donc surtout sur les deux derniers d'Arai Hakuseki et de Matsudaira Sadanobu. Donc, pour le deuxième cas, heureusement, on a un traitement assez intéressant en français, écrit par un professeur à l'Université de Kyoto. Ça ne manque pas de... Ça a quelques problèmes dans la vision, donc c'est construit, parce que M. Nakagawa, qui a écrit ce texte, est un peu, il a publié dans une revue portant sur les Lumières. Et donc, en fait, il a très envie, même trop envie, de démontrer que son auteur, c'est un homme des Lumières, tout en étant au Japon. Donc, il fait sans cesse ces comparaisons très étroites entre les grands esprits, les grands intellectuels européens du XVIIIe et cet autre personnage qui était au Japon au XVIIIe. Je pense que ce n'est pas tout à fait nécessaire, mais néanmoins, c'est intéressant de voir comment il décrit le texte de Hakuseki. Il nous dit que le motif de l'intention de Hakuseki, motif qui apparaît à la surface de son écrit autobiographique, c'est de sauver de l'oubli les souvenirs de ses parents et de ses grands-parents, les événements de sa vie et les faveurs qu'il a reçues de Shogun Ienobu afin de les transmettre longtemps de père en fils. Il dit, si un de mes descendants lit et écrit, il comprendra les peines que ses ancêtres ont endurées pour s'établir dans la société et les faveurs incomparables que j'ai reçues de sa majesté le Shogun. En fait, il s'agit de quelqu'un qui a eu une vie très mouvementée. Il appartient à une famille qui, à un moment donné, a eu énormément de pouvoir, puis qui a perdu le pouvoir. Donc, en fait, c'est aussi un peu ça, les vicissitudes qu'il est en train de décrire dans son texte. Donc, vous voyez, né à Edo en 1657, Arai Hakuseki est mort dans ce même Edo, donc, c'est-à-dire Tokyo, en 1725, à l'âge de 68 ans. Là, vous voyez un peu le dada de notre auteur. La date de sa naissance correspond à l'époque où Pascal écrivait ses provinciales. Donc, il est toujours en train de faire ses équivalences. Et celle de sa mort à l'année où Voltaire fut bâtonné par les laquais du chevalier de Rohan, deux ans après la publication de sa Henriade. Son père, donc, pour revenir au Japon, son père était un samouraï de la classe inférieure, subordonné à un petit seigneur de 20 000 kokuduri, tsutsuya. Hakuseki, son père et son grand-père connurent tous trois une période de chômage. Donc, c'est ça le problème. Et devinrent ronin, c'est-à-dire sans maître. Il écrivit dans une lettre, « Je suis de basse condition et je traverse au cours de ma vie presque toutes les difficultés du monde. » Donc, le problème, c'est qu'il a eu des rapports positifs avec un certain nombre de shoguns, Mais puis, il a aussi eu des difficultés, notamment avec les derniers. Mais ce qui est aussi intéressant, et c'est l'aspect qui est souligné tout à fait en bas, c'est qu'il est quelqu'un qui a vécu dans cette époque qu'on appelle normalement l'époque Genroku, donc qui correspond à ce qu'on appelle aussi la culture de Genroku, dans les grandes villes comme Osaka, Kyoto et Edo. Et ça, c'est extrêmement connu parce qu'entre autres, bien sûr, on a une espèce d'efflorescence au niveau de la culture artistique et visuelle de cette époque, qui correspond plus ou moins à l'époque quand il a lui-même vécu. Alors ça, c'est probablement l'artiste ou un des artistes les plus connus de l'époque. Hein. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'illustrations, certains très très risqués. Donc, je ne vous ai pas montré ce qui frotte vraiment à la pornographie, plus ou moins. Mais là, voilà la description qu'on a, que j'ai pris donc, d'une exposition qu'on a eue portant sur ces peintures-là à la Bibliothèque nationale. Donc, on dit que c'est vers 1665 qu'on a commencé à parler de ce qu'on appelle le monde flottant. Ça, c'est la description pour cette époque. Et on dit que c'est une question de vivre uniquement le moment présent, se livrer tout entier à la contemplation de la lune, de la neige, de la fleur et cerisier, de la feuille d'érable. Ne pas laisser abattre par la pauvreté et ne pas la laisser transparaître sur son visage. Donc, bien sûr, vous avez ici le livre qui est mentionné de Hishikawa Moronobu, la personne dont je viens de parler. Et donc, on parle justement de cette expression devenue presque une espèce de stéréotype maintenant, tellement on parle de ça, de ukiyo-e. Donc, qui est souvent mentionné, les images du monde flottant, et où en fait on est souvent dans ces milieux urbains, les bordels, les endroits où donc les gens, même venant de la classe supérieure ou parfois non, sont présentés, mais aussi dans des contextes qui sont des contextes souvent fortement de satire, de parodie du monde à l'envers. Donc, tout cela, ça fait partie justement du contexte dans lequel notre auteur va écrire son texte. Donc, un texte autobiographique qui se fait en trois parties. Donc, on commence avec les souvenirs des parents et des grands-parents, les études de son enfance, sa jeunesse, les péripéties jusqu'à l'âge de l'homme. Et puis, comment en fait il a été lié avec un des Tokugawa, qui l'a bien traité. Et puis, par la suite, comme on dit, le ton change dans les deuxième et troisième parties. Et là, ça devient autre chose. Et notamment, bien sûr, un des problèmes, c'est qu'il avait des grosses difficultés avec celui qui est devenu shogun, qui appartenait à la famille Tokugawa, mais pas à la ligne centrale, parce que la ligne centrale ayant été épuisée, on est allé chercher des gens des lignes cadettes. Et Yoshimune, qui est normalement considéré dans les livres d'histoire politique japonaise comme un administrateur très efficace, un réformateur, etc., ici est présenté comme quelqu'un de très méchant et très, très mesquin, qui a maltraité les gens, et notamment l'auteur de ce texte lui-même. Donc, on arrive vers la fin de cette analyse où on nous dit que ce texte, bien sûr, Horitaku Shibanuki, notre auteur nous dit que Georges Gustoff, dans ses conditions et limites de l'autobiographie, a dit, avec sa fierté d'être européen, il ne semble pas que l'autobiographie se soit jamais manifestée en dehors de notre ère culturelle. On dirait qu'elle traduit un souci particulier à l'homme d'Occident. On revient toujours sur les mêmes idées, les mêmes notions stéréotypées. L'auteur de l'autobiographie donne à son image une sorte de relief par rapport à l'environnement, etc. Et là, donc, on peut très bien se demander pourquoi, à ce moment-là, on ne considérerait pas ce texte, même si on n'a pas envie de faire tout de suite le parallélisme avec Pascal ou avec Rousseau et ainsi de suite, pourquoi pas, dans le cadre japonais au moins, considérer ça comme quelque chose d'intéressant, venant de milieu guerrier, donc venant de milieu qui n'est pas un milieu modeste, mais néanmoins quelqu'un qui n'est pas protégé forcément des vicissitudes, qui a beaucoup de hauts et de bas, et donc qui écrit ce texte qui est en partie un texte de mémorialisation par rapport à sa famille, mais aussi un texte amer, un texte plein d'amertume par rapport à la façon dont il a été traité dans sa vie. Et puis, vous regardez ce passage, par exemple, dans lequel il dit « Les gens qui sont assujettis au Tokugawa de père en fils se félicitent en disant que la famille des Tokugawa se portera bien désormais grâce aux réformes du gouvernement. » Donc, il parle justement des réformes de dernier shogun, de Yoshimune. Et dit « Et médisent même de sa majesté décédée au sujet de Manabe Akifusa, c'est un incident qui n'a à voir avec l'empereur. » C'est tout à fait honteux, car dans un siècle, la génération suivante critiquera tout cela avec justice. Donc, il nous dit que c'est le mobile le plus élémentaire qui conduisit Hakuseki à écrire son autobiographie. Donc, voilà un de ces trois textes qui sont donc tout à fait intéressants, milieu guerrier, milieu administratif, milieu bureaucrate, mais quelqu'un qui a toujours cette espèce de sentiment de ne pas être très bien intégré dans le système, qui n'est pas très content avec la façon dont son monde fonctionne et qui a aussi cet aspect de vivre dans un milieu où il y a énormément de production de textes et d'images satiriques, parodiques, etc. Donc, on peut toujours essayer de faire le lien entre ce milieu plus large et le milieu plus particulier de ce texte. Là, je passe au deuxième personnage. Et ça, c'est Matsudaira Sadanobu, que j'ai rencontré d'ailleurs parce qu'un de mes collègues à Los Angeles a écrit une biographie de lui il y a fort longtemps, c'est l'historien belge Herman Holmes. Et le texte Holmes, ça s'appelle, c'est un titre délibérément oxymore, qui est Charismatic Bureaucrat, le bureaucrate charismatique. Est-ce qu'il y a des bureaucrates charismatiques? Il faut se demander. Là vous voyez Matsudaira Sadanobu, c'est un orthoportrait d'ailleurs ça. Donc, ça, c'est aussi intéressant dans le genre autoréprésentation, aussi les autoréprésentations visuelles. Et alors, là, vous voyez plus ou moins son CV. Donc, lui, il a vécu un peu plus tard que l'autre. Il était donc daimyo du fief de Shirakawa. Et en fait, il est lui-même le petit-fils de Yoshimune. Il appartient justement à la famille Tokugawa, et en fait la famille Tokugawa avait aussi parfois des lignes qui utilisaient plutôt le nom Matsudaira. Donc il était lui-même quelqu'un qui était peut-être à un moment donné un candidat au shogunat, mais il ne l'a pas eu. Mais par contre, il est devenu quelqu'un de très important dans le système bureaucratique. Il est aussi connu comme quelqu'un qui est aussi un réformateur. Un réformateur qui a réformé son propre fief, mais qui a aussi fait un certain nombre de choses, qui a écrit sur beaucoup de questions. Il a aussi été quelqu'un qui est connu parce que c'est le moment quand il y a des problèmes portant sur les rapports avec les Russes qui vont se présenter à la fin du XVIIIe siècle. Ça, c'est l'ambassadeur ou l'envoyé russe, d'ailleurs, qui est un finno-suédois, qui s'appelle Adam Laxman, et qui arrive donc avec un certain nombre de prisonniers japonais ou des naufragés japonais dans son entourage. Ça, c'est Laxman représenté par les Japonais. Et, par exemple, ce moment du rapport entre les Russes et les Japonais est un des grands sujets, par exemple, traité par le passé par quelqu'un comme Donald Keane. Donc, Matsuda Sadanobu, c'est quelqu'un qui a une ouverture vers le monde. Il est quelqu'un qui pense qu'il faut, jusqu'à un certain point, réformer le Japon. Et il est donc normalement connu comme quelqu'un de très sérieux, très solennel, très sérieux. Donc, là, vous voyez qu'il est devenu premier conseiller de Shogun en 1787. Et il a donc voulu mettre des restrictions sur les corporations de marchands et ainsi de suite. Et surtout, si on regarde les textes normaux, on dit, comme nous dit ce texte-là, sur le plan idéologique, il favorisa l'éducation de néo-confucianisme, rénova le contenu pédagogique de l'école shogunale, et donc il est considéré comme quelqu'un de très conservateur d'un certain point de vue et très cynisé, et donc très porté vers le néo-confucianisme. C'est comme ça qu'on conçoit les choses. Alors, déjà, des gens qui ont regardé son texte autobiographique ont remarqué que son texte autobiographique, Uge no Hitokoto, en fait, ça porte quelques surprises. Tout d'abord, par le fait qu'il est quelqu'un qui apparemment qui est très sensible pour raconter les relations qu'il a avec les femmes, avec ses concubines. Donc, il a une vie intérieure qui n'est pas du tout celui de ce guerrier, ce bureaucrate un peu sec qu'on trouve ailleurs. Et comme, par exemple, nous raconte ce texte-là, il est quelqu'un qui parle même de sa vie sexuelle, tandis que les autres deux personnages qui ont écrit leur autobiographie ont plus ou moins évité de parler de la question. Et puis, il dit que... Il parle aussi assez franchement d'un certain nombre de ces choses, y compris de son mariage. Il dit, par exemple, qu'à un moment donné, il s'est marié avec la fille d'un de ses membres de sa famille, la fille de Matsudaira Sadakuni. Il dit que mon beau-père a présenté ses excuses en disant que sa fille n'était pas belle. Et à cause de ça, on risquait d'avoir des problèmes d'affection. Et donc, il a dit, et moi, j'ai pensé en effet que quand on se marie, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut trop... Il ne faut pas trop insister sur comment les... Over whose looks one should not be made, much should not be made of. Donc, il faut plus ou moins éviter de penser trop de si votre femme est belle ou non. L'idée étant que pour les femmes belles, on cherche chez les concubines. Il parle de tout cela avec une franchise, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est connu pour avoir écrit des essais, des textes. Il a même été quelqu'un qui était assez doué en tant que jardinier. Mais de toute façon, si on regarde les livres et des traitements normaux de Sadanobu, on a cette impression de quelqu'un qui est un bureaucrate assez sec, très solennel, très néo-confucien. Et c'est pour cela qu'on a été assez choqué quand on a découvert un texte écrit de lui qui s'appelle Daimyo Katagi. C'est un texte qu'il a écrit probablement quand il était relativement jeune, qu'il a voulu détruire. Et il a probablement détruit sa propre copie, mais en fait, deux de ses serviteurs ont fait des copies. Donc, en fait, finalement, le texte a survécu. Et c'est un texte dans lequel il se moque éperdument du milieu samouraï et notamment des néo-confuciens. Donc, il se moque de ce qui est, en effet, son image officielle. Et il nous dit, par exemple, regardez ça, il nous dit que... il parle des musty Confucian scholars. Et il dit que si on est samouraï et si on est homme, on est censé pas dire j'ai froid. Donc, si vous marchez sur un clou, vous n'êtes pas censé montrer que vous vous êtes fait mal. Et ainsi de suite. Donc, par exemple, ils sont censés fumer du tabac, mais le tabac est tellement fort qu'en fait c'est déplaisant. Mais on fait semblant de l'aimer. Donc, tout cela, c'est censé être le samouraï de cliché, le samouraï de cliché qui est l'homme fort, the tough guy. Et par exemple, encore une fois, il faut celui qui mange des épices très fortes. Et on mangeait d'un poivre, morceaux de poivre, et il pleure, mais tout en pleurant, elle dit non, ça c'est très bien, et je me régale. Donc tout cela c'est pour se moquer de ce qui est le samouraï en cliché. Et puis il développe ça, il a même des passages où il se moque justement de ces gens qui sont des néo-confuciens. Qui passent leur temps à admirer les Chinois, même si les Chinois n'ont en fait pas grand-chose à avoir à dire. Par exemple, il dit, voilà le samouraï qui aime tellement la Chine que tout ce qui est à Chine, par exemple, porcelaine de Chine, des poupées de Chine, et ainsi de suite, il les aime tout, parce qu'il faut être cynisé pour démontrer qu'on est quelqu'un de sophistiqué. Et puis, il se moque aussi des prétentions littéraires de ces gens qui sont en train d'écrire des textes en mettant ensemble des caractères qui sont totalement illisibles. Et le produit, il dit, n'a pas de début, pas de fin, pas de développement. Mais on est très fiers en disant, voilà, qu'est-ce que je suis sophistiqué parce que j'ai appris toutes ces choses sur la culture chinoise. Donc, du coup, en fait, en regardant ce texte, on se rend compte qu'on est face à quelqu'un qui est un peu plus compliqué à plusieurs niveaux. Donc, on a l'image officielle. Puis, on a l'autobiographie. Dans l'autobiographie, déjà, on peut faire la distinction entre l'homme vu de l'extérieur et la vie intérieure de ce personnage. Et puis, on a ce texte. On ne sait pas trop comment décrire ce texte exactement parce que ce n'est pas forcément un texte en première personne, mais c'est un texte où on voit qu'il a des doutes, il se moque en fait du genre de personnage qu'il est lui-même. Donc il est à la fois l'idéal de l'homme confucien, néo-confucien de la fin du 18e, mais il est aussi quelqu'un qui trouve que tout cela c'est excessif, c'est ridicule, et ainsi de suite. Donc, on a ces deux côtés, et les deux côtés sont en train de se jouer l'un contre l'autre. Donc, même en regardant ce petit échantillon de textes venant de l'époque Edo et du milieu samouraï, en fait, on se retrouve dans un cadre où il y a pas mal de diversité, pas mal de complexité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité de regarder plus loin, parce que la réalité, c'est que, et là encore, pour revenir à l'analyse de Monsieur Lozeront, on voit qu'en réalité, il y a beaucoup plus de textes autobiographiques et écrits en première personne à cette époque qu'on avait soupçonné. Donc, même en sortant de ce milieu des guerriers et des samouraïs, par exemple, on a ces textes très intéressants écrits par des acteurs de théâtre. Donc, par exemple, ça, c'est un des fondateurs de Kabuki de l'époque Edo, Nakamura Nakazo. Et en fait, il y a plusieurs acteurs qui ont le même nom. Donc, ça, c'est le premier qui a le nom au XVIIIe siècle. Et lui, en fait, il a aussi écrit une espèce de texte autobiographique parlant de sa vie et, en fait, comment elle a été maltraitée, négligée, etc. Mais malgré tout cela, il a survécu. Donc, on voit que dans le cas japonais, on a un éventail de possibilités. J'ai touché quelques-uns, mais j'aurais pu dire beaucoup plus en regardant plus loin. Là, vous voyez un texte qui a été traduit récemment, un texte tardif du 19e, l'histoire de Musui, qui est l'autobiographie d'un samouraï. Mais ça, c'est vraiment l'époque du déclin Tokugawa. Donc, il est en train de parler de ce qui est devenu le samouraï à cette époque-là, quand il n'est plus ce qu'il était dans cette société. Donc, c'est, en quelque sorte, on peut aussi voir un développement dans ces auto-représentations de samouraï entre le 17e, 18e et puis le 19e. On a énormément d'autres petits textes, mais qui sont quand même utiles, comme ces journaux de voyage écrits par des femmes, qui est le sujet de ce deuxième texte. Et bien sûr, ça va de soi qu'on a des analyses très différentes possibles. On a des analyses qui se centrent sur cette idée des gens qui sont irrévérencieux, qui n'ont pas une acceptation aveugle du système, qui se moquent même du système et ainsi de suite. Par contre, on a aussi parfois des analyses comme celui qu'on trouve ici, fait par un autre de mes collègues à Los Angeles, Katsuya Hirano, qui est un texte où il insiste beaucoup plus sur l'oppression. C'est un texte qui se veut vaguement althusserien. Donc, c'est pour lui, tout ça, c'est que les signes d'un système très pesant, très oppressif, qui laisse peu de place pour autre chose qu'un monde extrêmement sclérosé qui sera changé pour lui qu'avec la restauration de Meiji. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs points de vue. Mais pour terminer, je vais revenir sur encore un petit texte de la fin du 19e siècle d'un voyageur français, donc Jules Renard, qui en 1895 est au Japon. Il dit « Un Japonais à la peau sans plis me dit que d'abord tous les Européens lui ont paru les mêmes et qu'il a mis longtemps à les individualiser. Cependant, lui dis-je, nous sommes blancs, bruns, rouges, tandis que vous êtes tous jaunes et noirs. Il vous paraît, dit-il. Je vous remercie.